Histoire des hôpitaux Xavier Arnauzan et du Lévesque. 1889-2004, Dr Philippe Gallon, service d'anesthésiologie, réanimation maison du Lévesque, hôpital du Lévesque, Pessac. Quand les touristes prennent la belle route de Bordeaux à Arcachon, 2 km après avoir passé le bourg de Pessac, ils laissent à leur gauche, juste en face du vignoble du pape Clément, un très beau domaine boisé qui, au premier jour de l'été, est un admirable parc aux essences très variées, rempli de fleurs et de rosées, dont les vastes pelouses sont encadrées d'arbres magnifiques. C'est l'ancien domaine de Feuillat, aujourd'hui sanatorium Xavier Arnauzan, l'un des plus modernes et des plus beaux que l'on puisse aujourd'hui trouver en France. C'est par ces mots pleins d'enthousiasme que le professeur et médecin-chef Eugène Lerévente, en 1928, son établissement, le sanatorium Xavier Arnauzan, à Pessac. En 1882, avec la découverte de son agent causal, le bacille de Koch-Houdéka et l'évolution vers une société industrielle et urbaine, la phtisie change de statut. Elle n'est plus héréditaire, mais contagieuse. De maladie élitiste et romantique, elle devient populaire. Elle change même de nom et devient la tuberculose. Elle reste malgré tout un redoutable fléau tuant plusieurs centaines de personnes chaque année dans les grandes villes de France. Il convient donc de s'occuper de tous les tuberculeux de manière rationnelle et efficace. Malheureusement, il n'y a, en cette fin du 19e siècle, aucun traitement possible. Le seul moyen d'avoir un peu d'efficacité est d'empêcher les gens de se contaminer, de prévenir la maladie, et ce sera le rôle d'une nouvelle spécialité héritée des travaux de Pasteur, l'hygiène. Cette médecine hygiéniste se développera suivant deux axes complémentaires, d'une part en amont, les multiples campagnes d'information dans les journaux, les écoles et les entreprises, l'affichage, les créations de dispensaires avec comme slogan, respirez l'air pur et surtout, ne crachez pas par terre. D'autre part, l'enfermement et l'isolement des malades, avec le double avantage de pouvoir les soigner selon les schémas en vigueur et surtout, en les isolant du reste de la population, d'éviter la contagion et la dissémination de la maladie. Cependant, à cette époque, rien n'existe dans le domaine public en matière de lutte antituberculeuse, tout reste à entreprendre, et en matière de prophylaxie tuberculeuse, la vétérinaire est plus avancée que la médecine humaine. Point. C'est surtout sur l'initiative privée que repose tout ce programme. Des médecins, des mécènes se réunissent, des associations, des sociétés se créent pour financer et organiser la lutte antituberculeuse. Bordeaux sera pionnière grâce au docteur Armingaud qui, en 1892, fonde la première société, la Ligue préventive contre la tuberculose. Il eut beaucoup de difficultés pour mener à bien son projet devant l'indifférence et l'hostilité de ses concitoyens, y compris au sein du corps médical. C'est dans ce contexte que le 17 avril 1889, les médecins bordelais Durand et Dupeu créent à leur tour l'œuvre du sanatorium girondin. Dupeu s'occupa plutôt de communication, propagande disait-on à l'époque. Jean Durand, lui, se chargea de prospecter et de trouver un terrain pour construire un sanatorium. Il le fallait proche de Bordeaux, au bon air et pouvant être facilement isolé tout en étant simple d'accès. Son choix se porte sur le domaine de Feuillat à Pessac. C'est, d'un peu plus de 14 hectares, une propriété rurale, située près de l'Alouette, en fait une propriété viticole, entre la route d'Arcachon et la voie ferrée, qui appartenant à une veuve, Madame Gibert, est fait pendant au domaine de Pape Clément. Pour 65 000 francs, la vente a lieu le 20 décembre 1899 au profit de la société anonyme immobilière du domaine de Feuillat, pour la louer à l'œuvre du sanatorium girondin. En effet, celle-ci n'étant pas société d'intérêt public, elle ne pouvait acquérir directement le domaine. Après un voyage d'études surtout en Allemagne et en Suisse, pays bien plus en avance que nous au plan de la lutte antituberculeuse, et en particulier de la technique du sanatorium, Durand, Dupeu et l'architecte Minviel, commence dès novembre 1900 la construction du corps central, et de l'aile droite du premier pavillon, pavillon 4. Parallèlement, est entrepris un vaste programme de reboisement du parc, afin de le protéger des vents et des poussières de la route départementale, mais aussi de compléter l'isolement. Le 14 octobre 1902, c'est l'inauguration de ce bâtiment qui comprend l'aile droite, le pavillon central avec son escalier, et en arrière de l'autre côté une galerie de cure, exposée au midi, sur deux niveaux, rez-de-chaussée et étage ouvrant directement sur les chambres des malades. Ce bâtiment est alors à la pointe du progrès avec chauffage central, eau chaude, électricité, grandes fenêtres et au plafond, qui assure lumière et ventilation. Il répond aux critères hygiénistes de ce temps. À cette époque, le traitement de la tuberculose repose sur quatre principes, repos, air pur, alimentation saine et soleil. Réduire l'activité qui est source d'agitation bacillaire, et de dissémination des BK. L'air pur de la campagne ou des forêts de pins sert d'antidote à l'air pollué des ruelles étroites des quartiers populaires de Bordeaux, synonyme de misère. Une bonne et généreuse alimentation est le seul moyen de retrouver des forces. N'oublions pas que l'amaigrissement et la consomption signent la tuberculose. Enfin, le soleil favorisant la synthèse de la vitamine D peut faciliter la calcification de la caverne tuberculeuse. Ainsi, au repos, au soleil, allongé sur un transat et sans parler, la célèbre cure de silence, on escompte que le bacille restera bien tranquille, et attendra de se faire emmurer par la calcification des parois de la lésion tuberculeuse. Régulièrement, le domaine s'agrandira, un demi-hectare, en 1900, avec l'achat d'une parcelle mitoyenne appartenant à Pierre Austin, vigneron. 1902, nouvel achat d'une petite prairie aux Époudémeries. Surtout l'œuvre est enfin reconnue d'utilité publique et peut ainsi, le 8 décembre 1903, racheter à la société immobilière l'initiale, le domaine de Feuillet ayant devenir le vrai propriétaire. Le pavillon central pouvait accueillir 35 femmes et en 3 ans, 126 maladies furent hospitalisées avec, par huile, 42 guérisons. Il convenait donc de rapidement augmenter sa capacité d'accueil, mais ce n'est que grâce à des fonds privés, comme le pari mutuel que la construction de l'aile gauche du bâtiment put être édifiée seulement en 1914. Les enfants aussi étaient accueillis à Feuillet dans la résidence initiale du domaine, en plein milieu du parc. Cette jolie bâtisse avec un double escalier arrondi, deviendra par la suite la communauté des religieuses. Pendant la Grande Guerre, le sanatorium fut réquisitionné pour y soigner les soldats tuberculeux. Si la discipline et le déroulement de la journée restaient sous l'autorité militaire, les soins demeuraient toujours du ressort du docteur Durand. Cependant, l'organisation matérielle, repas, chauffage, vêtements, médicaments, c'est-à-dire tout ce qui coûtait cher, restait sous la responsabilité de l'œuvre. La guerre, par la force des choses, entraînait une diminution des dons privés et des subventions publiques, et il faut bien le dire, une indifférence du public. De plus, l'armée allouait, pour ses soldats, une trop faible indemnité de 4 francs par jour. À la fin des hostilités, le déficit financier était trop difficile à combler, et empêchait également le sanatorium d'investir, de s'agrandir et de se développer. D'autre part, la guerre et ses misères avaient augmenté le nombre de tuberculeux, inquiétant les autorités bordelaises, en particulier le professeur Xavier Arnauzan et la municipalité de Bordeaux. Pour la plupart d'entre eux, hospitalisés à l'hôpital Saint-André, au centre de Bordeaux, ces malades posaient le double problème de l'embouteillage des services par une occupation trop prolongée des lits, de la contamination des autres patients. Il manquait en Gironde 800 lits de tuberculeux, or Feuillet ne pouvait en accueillir qu'une centaine environ. Ainsi le docteur Durand VI dut passer la main à une structure plus forte, en l'occurrence, La ville de Bordeaux et le 3 août 1917, le professeur Arnauzan présenta au conseil municipal bordelais un rapport circonstancié sur l'opportunité d'acquérir le sanatorium. Le sous-saint fut passé le 10 janvier 1918 et devint effectif le 1er janvier 1919 pour la somme de 350 000 francs. Le sanatorium de Feuillat de Pessac passait sous l'administration des Hospices civils de Bordeaux. À nouveau sous l'impulsion de Xavier Arnauzan et de son nouveau maire, M. Philippard, un vaste programme d'extension fut mis sur pied. Tout d'abord, une série d'achats fonciers portant sur des petites parcelles tout autour, portant la superficie à une vingtaine d'hectares d'un seul tenant. Dans le même temps, se développe le programme immobilier. En 1919, achèvement du premier pavillon. 1922, construction de deux pavillons du personnel, d'une cuisine centrale, d'une buanderie avec une unité de désinfection, et d'une station de traitement des eaux usées. Avec les économies réalisées sur les devis, Xavier Arnauzan put même faire bâtir une chapelle car disait-il, il ne suffit pas de donner de la nourriture, du repos, de l'air et des remèdes, il faut pendant l'heure, les malades, l'en captivité au sanatorium, remonter un peu leur âme, réconforter leur morale et mettre dans les soins un peu d'éternité. La chapelle assurera cette partie de leur traitement. En 1925, deux longs bâtiments de 93 mètres, presque identiques, sont inaugurés. Un pour les enfants, pavillon 3, avec deux ailes, une pour les garçons et une pour les filles, séparés par l'unité centrale comprenant les services, le réfectoire et les salles de bain. L'autre pour les hommes, pavillon 5, est situé en arrière des cuisines. Xavier Arnauzan s'était extrêmement investi dans cette modernisation du sanatorium, et la séance du conseil municipal de Bordeaux du 5 mai 1922, marquera les esprits tant l'argumentation et l'éloquence du professeur sera convaincante. Il fallait trouver tout de même un peu plus de 4,5 millions de francs, et dans cet immédiat post-guerre où il y avait beaucoup à reconstruire, nombreux sont ceux qui sollicitaient les pouvoirs publics. En 1925, les deux pavillons du personnel situés à l'entrée, encadrant le bâtiment central de l'administration, furent dévolus à d'autres fonctions. Le premier, à gauche le plus proche de l'entrée, reçut les femmes convalescentes et le deuxième, à droite, fut affecté aux adolescents atteints de tuberculose osseuse. Ce dernier fut modernisé et doté de salles d'intervention orthopédique et de galeries de cure, sous la direction du professeur Rocher. À la fin des années 20, le sanatorium comprenait 270 lits et pouvait hospitaliser environ 500 malades par an. Il était un des plus modernes de France. Le pavillon central du début fut lui aussi modernisé avec création d'un véritable plateau technique, une salle d'opération pour les interventions chirurgicales, comme les célèbres pneumothorax, ou les thoracoplastiels, 0, l'unité de radioscopie, une salle de traitement par les rayons ultraviolets, les salles de stomatologie et d'OR et la pharmacie. Enfin le laboratoire de bactériologie où l'on traquait le BK, ainsi qu'un laboratoire de recherche. Notons aussi ce qui faisait la fierté des concepteurs, la chaufferie centrale, qui par canalisation apportait le chauffage central à tous les bâtiments, les services de désinfection, l'évacuation et le traitement de toutes les eaux usées. Le chef d'établissement était alors le docteur Eugène Leray et son adjoint, le résident comme on l'appelait, le docteur Cossimon. Les infirmières étaient des religieuses, les sœurs de la charité de Nevers, dont leur logement ou communauté était la maison initiale du domaine de Feuillat libéré de ses enfants, ceux-ci ayant, maintenant, leur propre bâtiment. Cette image rassurante n'en avait pas moins un revers. Ces bâtiments, bien que modernes dans leur fonctionnement, dégageaient un aspect de tristesse. Faits de parpaings et de briques, ils étaient bas de leur seul rez-de-chaussée et plutôt gris. Leur dispersion dans le parc ajoutait à l'aspect d'isolement et de solitude, sans parler des inconvénients pour déplacer les malades d'un bâtiment à l'autre pour les examens de radioscopie, ou même les interventions chirurgicales. Il nous faut imaginer le pauvre patient venant de subir une thoracoplastie, ramené vers son pavillon, sans trop de ménagement et quasiment sans antalgique, allongé sur un chariot aux roues pleines carottant dans les trous des chemins, parfois abrité du vent ou du crachin par une simple bâche. Ce système de soins ressemblait presque à un système quasi-carcéral. Les malades n'avaient pas le droit de sortir, la discipline était stricte avec, comme au pensionnat, des horaires imposés. Bien que l'on pouvait voir de temps en temps des malades dans les bars du carrefour de l'Alouette, on était là pour se soigner, pas pour s'amuser. Et puis il y avait l'exclusion de la société. L'éloignement d'abord, à une dizaine de kilomètres de Bordeaux. Les visites des familles ou des proches, étaient contingentées par l'administration, et réduites car les communications étaient difficiles. Il n'y avait pas la facilité des voitures particulières comme aujourd'hui. Comme se souvient le professeur Fréau du temps de son internat, il fallait prendre un tramway bruyant, et brinque-ballant qui parfois, déraillait dans la côte du Haut-Brion. L'arrêt était devant le portail et de là, le malade allait en empruntant la grande allée bordée de chênes, la seule goudronnée, jusqu'au bâtiment des entrées le cœur serré, le regard anxieux, avec pour bagage un ballot ou une vieille valise 13. L'accueil était quasi inexistant et rebutant et de suite, au cas où il aurait encore un doute sur son état, on lui signifiait bien fort qu'il était contagieux. Les Pessaquais avaient peu de rapport avec le sanatorium. Il était un peu loin du bourg, et bien caché par les arbres du parc. Hormis les religieuses, le personnel était d'anciens tuberculeux guéris et restés sur place. Et puis, la contagion faisait peur, et même ce tramway Bordeaux-Pessac-Lalouette avait mauvaise réputation, considéré comme pestiféré. Jusque vers le début des années 60, des Pessaquais se souviennent que leur mère leur interdisait certaines séances de cinéma, car il y avait des soldats de la guerre d'Algérie, qui bien que convalescents venaient du sanat de Feuillat. Point d'exclamation. Les patients étaient variés, l'enfant, accompagné de sa maman pour qui c'était un déchirement, d'autant qu'il s'y surajoutait parfois un sentiment de culpabilité, quand les parents étaient responsables de la contagion, l'étudiant en médecine ou la jeune infirmière contaminée, pendant leur travail à l'hôpital ou dans un dispensaire, l'alcoolique un peu agressif ou l'employé timide. Les gens plus fortunés étaient bien moins nombreux, car la tuberculose touchait plus volontiers des gens des basses classes sociales ou miséreux. Les bourgeois arrivaient à échapper au sanat en se faisant soigner à domicile, ou dans des établissements plus confortables. La durée d'hospitalisation était longue, souvent de plusieurs années. Il y avait beaucoup de décès au sanatorium, tous les jours, beaucoup plus qu'à Saint-André par exemple. Les enfants mouraient de méningite, les adultes d'hémoptysie foudroyante. Les corps étaient transportés sur un brancard recouvert d'une toile cirée verte vers un petit bâtiment près de la voie ferrée, la morgue. Tout le monde savait ce que cela signifiait, mais malgré tout, l'espoir de guérison existait de façon étonnante, chacun faisant des projets pour le futur, les décès étaient toujours pour les autres. Le 4 février 1928, coup de tonnerre à Feuillat, le professeur Xavier Arnauzan venait de mourir. Grande figure de la médecine bordelaise et internationale de cette époque, il était connu des Bordelais pour sa bonté, son dévouement, le bon docteur Arnauzan comme il était surnommé, mais également pour son action publique dans la lutte contre les grands fléaux sociaux, alcoolisme et tuberculose en particulier. Il fut, nous l'avons vu, l'âme et le moteur de la rénovation et de la modernisation du sanatorium, l'émotion fut donc forte à Bordeaux. Un mois plus tard, la municipalité de Bordeaux, dont M. Marquet était le nouveau maire, décida de nommer Feuillat Sanatorium Xavier Arnauzan. Toute cette période, des années 20 jusqu'aux années 60, fut l'âge d'or du sanatorium où les médecins phtisiologues soignaient la tuberculose selon les méthodes en vigueur, paraissant immuables. La guerre de 1939-45, les restrictions, l'occupation allemande, ont laissé peu de traces dans les murs même du sanatorium. Les soldats allemands ayant une peur maniaque de la contagion tuberculeuse. Cependant, les privations, le stress, les combats et surtout le retour des prisonniers de guerre et des déportés, qui avaient connu et enduré de grandes souffrances, ont fait exploser le nombre de tuberculeux à prendre en charge. En 1943, le 17 avril, un décret transforme les hospices civils de Bordeaux en centre hospitalier régional, et intègre le sanatorium. Va débuter alors une nouvelle et longue période de transformation. Un programme d'agrandissement étalé sur 8 ans par l'acquisition de plusieurs parcelles, donnera une superficie de presque 31 hectares, et un accès à l'avenue du Lévêque. De nouveaux bâtiments seront construits pour augmenter la capacité d'accueil. Un premier bâti, en 1946, sera le pavillon 6 d'allure plus moderne dans le style des HLM de l'après-guerre. Le deuxième, symétrique, le pavillon 7, sera inauguré en 1956. Au milieu sera édifié en 1951, un bâtiment plateau technique comprenant la radiologie, les laboratoires, l'ORL et la stomatologie. Enfin en 1954, sur les nouveaux terrains récemment acquis, sera ouvert le pavillon médico-chirurgical. Ce dernier, moderne et fonctionnel avec ses deux salles d'opération, suivait l'évolution des techniques chirurgicales et anesthésiques acquises auprès des Anglo-Saxons pendant la guerre. Jusque vers 1940, ce fut le règne du professeur Eugène Leray. Puis lui succédèrent deux chefs de service emblématiques du sanatorium, le professeur Ferdinand Pichot et le docteur Secousse. Le professeur Pierre Lomonier était chef du service de chirurgie. Enfin, le 17 décembre 1951, l'établissement perdait sa dénomination de sanatorium pour devenir l'hôpital Xavier Arnauzan. Cependant, après ces périodes d'expansion, il allait, à l'égal de ses congénères, connaître un lent déclin étalé sur plus de 20 ans, dont la première raison fut ni plus ni moins la fin de la tuberculose avec la découverte des antibiotiques antituberculeux. Le premier fut la célèbre streptomycine, arrivée en France avec les Américains en 1945. Pendant longtemps, elle fut distribuée avec parcimonie mais donnait déjà, sous le regard stupéfait des médecins de l'époque, au prix d'effets secondaires sévères, des résultats extraordinaires, la guérison de méningite ou de miliaire sévère. Puis en 1952, apparut l'isoniazide ou rimifon. Déjà la tuberculose n'était plus le fléau tant redouté. On pouvait en guérir, on pouvait même être soigné ailleurs qu'au sanatorium, quelle libération! Ces nouveaux bâtiments construits après la guerre étaient déjà obsolètes. En 1966, apparut la rifampicine ou rifadine, qui sonna le glas, pour un temps, de cette terrible maladie. Les patients, après stérilisation, en quelques semaines, de leurs lésions pouvaient sortir, retourner en ville, revoir leur famille et poursuivre leur traitement de consolidation en ambulatoire. Cependant, l'établissement va se réadapter et répondre, à nouveau, aux besoins de la population et marquer, de ce fait, un répit dans ce déclin avec l'apparition du cancer du poumon et du développement de la maladie asthmatique. Il est original de voir que le cancer du poumon est apparu en même temps que disparaissait la tuberculose. Cela s'explique par l'arrivée à maturité des premiers vrais grands fumeurs de l'après-guerre, avec les cigarettes industrielles américaines. Les services de phtisiologie se reconvertissent en services de pneumologie. Les médecins aussi changent de nom, de phtisiologue, ils deviennent pneumologues. Le chef de service fut alors le professeur Paul Fréour. À partir des années 60, les vieux bâtiments de soins fermèrent les uns après les autres. Les deux premiers, proches de l'entrée, seront reconvertis en hospice pour les vieillards auparavant logés à Pellegrin, le pavillon 5 des hommes sera affecté aux services généraux, et à l'école des ambulanciers, Le 3 des enfants fermera en 1975, et le 4 au pavillon central, fermera lui aussi en 1978. Enfin, en 1988, ce fut le tour du service de pneumologie de partir sur le Hall-Évêque. Au pavillon chirurgical, M. Lomonier fut remplacé par le professeur Louis Courreau. Ce dernier créa, à partir de cette vieille chirurgie de la tuberculose, un grand service de chirurgie thoracique internationalement reconnu. Le premier en Europe pour la chirurgie de la trachée ou de l'œsophagée, par la mise en route du programme, innovant, de transplantation pulmonaire et cardio-pulmonaire. Malgré les difficultés matérielles dues à un bâtiment vieilli, et un bloc opératoire inadapté à une telle entreprise, le professeur Courreau en fut l'organisateur infatigable jusqu'à son départ à la retraite qui coïncida avec le transfert du service sur le site du Hall-Évêque en janvier 1996. La deuxième raison à ce déclin, a commencé insidieusement à partir des années 30 où fut construite la maison du Hall-Évêque, la première du nom. C'est le professeur Loret qui fonda en 1928 la société anonyme à l'origine d'un hôtel médical, en fait un sanatorium. Madame Veuve Baroussel, demeurant au château du Hall-Évêque, apporta la part la plus importante avec son domaine de 40 hectares. Établissement privé, il devait accueillir des jeunes malades pulmonaires, payants, venant d'Amérique du Sud, 19. En réalité, cette opération ne marcha pas bien, et il a dû se reconvertir avec les patients tout venant, dont les frais de séjour étaient pris en charge par l'assistance médicale gratuite, 20. Spécialisé dans les tuberculoses osseuses ou viscérales non contagieuses, ce bâtiment était superbe avec de grandes terrasses, un solarium et des équipements médicaux et hôteliers de premier ordre. Sur l'arrière, il y avait un lac naturel, à l'emplacement de l'actuel centre François Magendy, où l'on pouvait faire du canotage ou pêcher. Certains pensionnaires travaillaient dans des ateliers appartenant à l'établissement qui s'étendait jusque vers la zone industrielle actuelle de Pessac. En 1962-21, le centre hospitalier régional de Bordeaux se porte acquéreur du Hall-Évêque, dans le but d'y installer une maison de retraite. Cette opération rentrait dans le cadre d'un vaste programme de refonte du centre hospitalier régional de Bordeaux 22, avec les transformations sur le site de l'hôpital Pellegrin, on commençait à penser au futur Tripode 23. Pour libérer de la place à Pellegrin, il fallait transférer les personnes âgées vers Pessac, d'où l'affectation des pavillons 1 et 2 comme hospice, la construction de la maison de retraite de la Loueté, l'utilisation de la maison du Hall-Évêque comme unité de gériatrie. De plus, cette acquisition, d'un vaste domaine foncier, donnait la possibilité d'installer les spécialités médicales émergentes comme la cardiologie, dans des locaux neufs et adaptés à leur développement futur. En effet, ces services, à l'étroit dans l'hôpital de Tondu, mal adapté et vétuste, étaient en pleine expansion. Une nouvelle génération de cardiologues et de chirurgiens formés aux techniques de pointe américaines comme les professeurs Bricot, Choussa, Bess et Fontan poussaient à la roue. La circulation extracorporelle débutante offrait des perspectives chirurgicales nouvelles, l'exploration du cœur demandait un appareillage de plus en plus complexe, dont l'exemple type est la coronarographie. Bref, il fallait créer un nouvel hôpital cardiologique avec un plateau technique moderne et évolutif. Ce programme débuta en 1975, par l'ouverture d'un bâtiment administrativement appelé USN, unité de soins normalisés, de 270 lits qui permit de dégager plusieurs services de l'hôpital Saint-André. Puis en 1978, celle du cardiologique. Grande unité de plus de 300 lits, dotée des appareils et de techniques les plus récents, il fut le phare de la modernité du CHU de Bordeaux sur la fin du XX01 siècle. Le programme se poursuivra par l'édification en 1979 du centre François Magendy 24. La dernière grande réalisation de structure médicale fut la refonte, On pourrait dire la recréation de la MHL ou Maison du Haut-Lévêque. Ce vieux sanatorium de 1930 sera totalement reconstruit et transformé en un superbe bâtiment de verre et d'aluminium abritant deux grands services de chirurgie digestive et thoracique. On ne pourrait être complet si l'on ne mettait l'édification des services annexes, blanchisserie, stérilisation, cuisine centrale, véritables usines ultra-modernes assurant un service débordant largement, vers les autres structures hospitalières de l'agglomération bordelaise. Face à un Haut-Lévêque en plein développement, l'hôpital Xavier Arnauzan ne voulut pas disparaître et entreprit son redressement. C'est à partir de la décennie 80 que se dessinent ces nouvelles orientations selon les trois axes traditionnels d'un CHU, enseignement, soins, recherche et développement. En 1977, création de l'IFCS, Institut de formation aux carrières de santé, bâtiment bas, en arc de cercle, flanqué d'un grand amphithéâtre nécessaire aux congrès ou séminaires médicaux. En 1986, signe des temps, s'ouvrant face du pavillon chirurgical, le centre de gériatrie ou CMLS, centre de moyen et long séjour, avec son pendant sur la commune de Lormont 25. L'activité de soins, qui est le premier travail d'un hôpital, se recentrera alors sur la gériatrie jusqu'à l'arrivée récente d'un service de soins palliatifs, toujours être en phase avec son temps. Puis, dans un avenir proche, un troisième pôle d'activité complétera cette mission et redonnera une nouvelle vie à cet ensemble, une plateforme technique de recherche de grande envergure, orientée vers le sang, le cœur et les vaisseaux. Installé dans les locaux remaniés et agrandi de l'ancien pavillon chirurgical. Enfin un pôle industriel avec l'édification du cyclotron, dont l'activité sera de fabriquer les traceurs radioactifs nécessaires au TEPSCAN 26. Notons en 1975, la création de la crèche du personnel, en 1980, la fermeture de l'entrée route d'Arcachon avec création de la nouvelle entrée principale avenue du Haut-Lévêque. Enfin, l'hôpital Xavier Arnauzan deviendra propriété pleine et entière du centre hospitalier régional de Bordeaux en 1998 par l'échange, avec la ville, du site de l'ancien hôpital des enfants du cours de l'Argonne. Nous conclurons sur l'histoire du sanatorium de Feuillat, qui, étalé sur un siècle, nous montre son adaptation régulière aux exigences de son temps. La tuberculose initiale a fait place à la pneumologie, celle-ci après une période d'hésitation d'une vingtaine d'années, la cède à des structures plus variées, mais complémentaires et modernes comme l'enseignement, la recherche et la production qualitative de produits de pointe. Un temps, on eût cru que l'innovation se serait déplacé définitivement de l'autre côté de la voie ferrée sur le Haut-Lévêque, mais ce vieil hôpital au nom sans doute peu connu des nouvelles générations, n'a pas fini de nous étonner. Extrait du site http://www.fédération-quartier-pessac.com/pessac/hôpitaux/galon1.htm